Imaginons l'embauche du stagiaire le plus brillant de la décennie. Genre, ce profil parle 1000 langues, il connaît absolument toute la littérature technique mondiale et il peut calculer des probabilités à la vitesse de la lumière.
Le candidat parfait sur le papier, quoi.
Exactement. Donc, le premier jour, la direction l'installe à un bureau hors de prix. Sauf que personne n'a pensé à lui fournir un badge pour entrer dans le bâtiment, ni un accès sécurisé au serveur partagé, ni même un manager pour l'expliquer ce que l'entreprise fabrique réellement.
C'est le désastre garanti.
Ouais. Résultat, ce génie reste assis dans le noir, incapable d'accomplir la moindre tâche. Et pendant ce temps, l'entreprise continue de payer son salaire astronomique.
Et le pire, c'est que cette situation complètement absurde, elle décrit à la perfection la crise actuelle des déploiements d'intelligence artificielle dans les grands groupes.
Ouais. L'obsession pour la puissance intellectuelle du modèle a totalement, mais alors totalement, éclipsé la logistique nécessaire pour le faire travailler.
D'accord. Décortiquons tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Nous sommes le 31 juillet 2026. Et aujourd'hui, on va parler des plateformes agentiques.
C'est le grand sujet du moment. Ah, ça oui! Ces architectures où l'IA ne se contente plus de juste générer du texte, mais orchestre vraiment des actions, utilise des outils, prend des décisions de manière autonome, c'est au cœur de toutes les stratégies d'entreprise en ce moment.
Tout à fait. Et pour ça, on s'appuie aujourd'hui sur un dossier de recherche hyper exhaustif de ce mois-ci. Ça compile les données d'IDC, de Gartner et les toutes dernières évolutions techniques d'acteurs comme AWS ou Databricks.
L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, il est clair. C'est de décrypter le retour d'expérience réel des grands groupes, mesurer le coût total de possession sur 5 ans et surtout dépasser ce fameux débat build ou buy, construire soi-même ou acheter sur étagère.
Parce que les chiffres de survie des projets actuels, franchement, ils sont glaçants. L'industrie traverse ce qu'on peut carrément qualifier d'hécatombe des projets pilotes.
Hécatombe, le mot est fort.
Mais légitime.
Totalement légitime. Les données d'IDC qui ont été corroborées par Cognizant il y a à peine quelques jours, montrent que 88% des preuves de concept d'agents n'atteignent jamais la phase de production à grande échelle.
Attends, 88% d'échecs?
Ouais. Concrètement, sur une grappe de 33 pilotes lancés simultanément dans une grosse multinationale, il y en a à peine 4 qui parviennent à survivre à l'environnement réel. Waouh. 4 sur 33. C'est un vrai bain de sang financier, quoi.
Et ça s'arrête pas là. Gartner projette même que plus de 40% des initiatives agentiques qui sont actuellement en cours de développement, elles seront purement et simplement annulées d'ici la fin de l'année 2027.
Avec un taux d'échec pareil, le réflexe naturel, c'est de blâmer la technologie, tu vois. On se dit, les modèles de fondation ont encore trop d'hallucinations, ou alors le raisonnement multi-étapes est trop fragile, ou bien c'est la latence qui rend le truc inutilisable.
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'infrastructure matérielle ou algorithmique n'est absolument pas la cause de cet effondrement. Pas du tout.
Ah bon? C'est pas la faute de l'IA?
Non. La dissection de ces échecs révèle des pathologies qui sont purement organisationnelles. L'étude montre que 41% des projets s'effondrent à cause de critères de succès qui sont mal définis dès le départ.
Donc on ne sait même pas ce qu'on veut mesurer, en gros.
C'est ça. Ensuite, 33% échouent parce que l'agent, une fois qu'il est déployé, il n'obtient pas les habilitations de sécurité pour accéder aux bases de données internes.
Le fameux stagiaire sans badge.
Exactement. Et enfin, 26% meurent de ce qu'on appelle la dérive d'évaluation.
La dérive d'évaluation, ouais. C'est un peu le syndrome de la ligne d'arrivée qui recule en permanence, non?
Ouais, c'est tout à fait ça.
Les directions métiers voient le prototype fonctionner, elles sont super impressionnées, et du coup, elles se mettent à exiger qu'ils gèrent des cas d'usage de plus en plus complexes qui n'étaient absolument pas dans le cahier des charges initiales.
Voilà, on en demande toujours plus.
Mais si on regarde ces trois causes, les métriques, l'accès aux données et le cadrage, en fait, on est face à un échec massif de la gouvernance humaine.
Complètement.
Pourquoi les entreprises s'entêtent-elles à vouloir régler des problèmes de gouvernance humaine en débattant sur la construction d'infrastructures cloud? C'est un peu comme, je sais pas, acheter un moteur de Formule 1 pour une voiture qui a ni volant ni destination précise.
C'est une excellente métaphore. Et c'est justement le cœur de ce faux débat, le fameux build versus buy. Historiquement, les équipes d'ingénierie, elles veulent tout construire elles-mêmes pour garder le contrôle.
Classique.
Et en face, les directions financières veulent tout acheter sur étagère pour transférer le risque. Mais aujourd'hui, la réalité du terrain impose un modèle hybride, ce qu'on appelle le buy to build.
Le buy to build, ok, ça marche comment concrètement?
En gros, les entreprises matures achètent la plomberie indifférenciée. la gestion des identités, le routage sécurisé, l'observabilité, la mémoire persistante de l'agent. Parce qu'en fait, il n'y a aucune valeur ajoutée à réinventer ces couches-là.
C'est la base, quoi.
C'est ça, et par-dessus ce socle commercial, elles construisent, elles buildent, leur propre logique d'orchestration métier.
Donc si cette approche hybride s'impose comme, on va dire, la seule porte de sortie face au désastre des pilotes, la question mathématique se pose direct. Combien ça coûte réellement de déployer une flotte agentique dans un grand groupe ?
Les chiffres sont costauds.
J'imagine, ouais. Les projections de notre dossier modélisent le TCO, le coût total de possession, sur 5 ans, pour un parc de, disons, 100 à 500 agents. Et là, les écarts financiers sont massifs.
L'approche du build pur, où l'entreprise développe tout son propre framework d'orchestration de A à Z, ça culmine à 30 millions de dollars sur 5 ans.
Waouh !
En face, l'approche du buy total, où l'on s'en remet entièrement à un produit fini d'un grand éditeur, ça atterrit autour de 18,2 millions de dollars.
Ok, on baisse déjà pas mal.
Ouais. Et l'approche hybride, le buy to build. Là, on descend la facture à 13,7 millions de dollars.
D'accord.
Parce qu'on limite le temps de développement interne strictement aux tâches qui génèrent de la marge.
Attends, je bloque sur le premier chiffre. 30 millions de dollars pour du développement interne, le rapport mentionne qu'il faut mobiliser 25 développeurs à temps plein la première année.
C'est colossal, oui.
Mais à notre époque, en 2026, où on déploie des copilotes dans tous les environnements de dev et où l'IA génère la moitié du code basique, comment on justifie de garder une telle masse salariale juste pour construire une plateforme interne ?
Mais il faut comprendre que ces 25 équivalents temps plein, ils codent pas des simples appels d'API vers un LLM, ils construisent infrastructures de résilience.
C'est-à-dire ?
Quand un agent autonome échoue à accomplir une tâche, le système doit gérer la récupération d'erreurs, il doit tracer le raisonnement pour les audits de sécurité, limiter la latence et surtout, surtout, empêcher les fuites de données entre les différents départements.
Ah oui, la sécurité avant tout.
Exactement. Créer cette architecture de confiance à partir de zéro, la tester et la maintenir en conditions opérationnelles avec une équipe dédiée de 15 personnes les années suivantes, c'est un gouffre financier. Les gains de productivité des copilotes pour les devs, ça suffit absolument pas à compenser ça.
Ok, je vois. Donc, le build pur, c'est limite un suicide financier pour n'importe qui en dehors de la Silicon Valley, quoi.
C'est à peu près ça.
Mais le buy total, le 100% acheté sur étagère, ça cache un autre piège meurtrier que notre recherche met en évidence. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est le piège du volume d'utilisation.
Ah oui, le volume, c'est le point critique.
Le choix entre ces architectures, en fait, ça dépend d'un point de bascule mathématique très très précis, qui est situé à 1 million de conversations annuelles. Au-delà d'un million, il se passe quoi, Sam ?
Au-delà de ce million d'interactions complexes, la facturation à l'usage, qui est typique des solutions entièrement externalisées, elle devient carrément punitive.
Genre vraiment douloureuse.
Ouais. Si on prend une hypothèse conservatrice de 2 dollars facturés par le fournisseur pour une session agentique complète, donc en incluant la récupération d'infos, le raisonnement et l'action, une adoption réussie dans un grand groupe peut rapidement atteindre 10 millions de sessions par an.
10 millions de sessions à 2 dollars la session.
La facture grimpe instantanément à 20 millions de dollars annuels. Et ça, c'est uniquement en coût d'inférence et d'utilisation de la plateforme. C'est littéralement l'effet compteur de taxi appliqué au cloud computing.
C'est fou. Et le pire, c'est que ce TCO, même à 20 millions, il omet la plus grande part de l'iceberg. Le dossier révèle que 20 à 30% des budgets d'adoption de l'IA sont totalement invisibles dans les plans initiaux.
Et on sait très bien ce qui coûte si cher.
Le nettoyage des données, bois, ça vampirise à lui seul 60 à 75% de l'effort total du projet. 60 à 75%. J'ai du mal à concevoir qu'on dépense plus d'énergie à trier des fichiers internes qu'à orchestrer des modèles de langage ultra sophistiqués. C'est pas un peu exagéré, non ?
Eh bien non. Et l'exemple de l'entreprise Safari 365, qui est détaillé dans l'étude, illustre parfaitement cette réalité contre-intuitive.
Qu'est-ce qui s'est passé pour eux ?
Pour eux, le nettoyage et la vectorisation de leurs données historiques internes ont pris beaucoup, beaucoup plus de temps que le paramétrage de l'agent lui-même.
Pourquoi ?
La raison est mécanique. Les systèmes agentiques basés sur le RAG, la génération augmentée par la recherche, ils sont fondamentalement littéraux. Ils n'ont pas l'intuition contextuelle d'un employé humain.
Pour bien comprendre la mécanique, si l'agent fouille dans un serveur d'entreprise et qu'il trouve, disons, un vieux document Word de 2018 avec une ancienne politique de remboursement. Et juste à côté, le PDF mis à jour de 2021. Il ne sait pas faire la différence ?
Non, pas de lui-même, non. S'il n'y a pas eu un nettoyage massif des métadonnées en amont, l'agent perçoit simplement deux vecteurs d'information qui répondent à la requête.
L'angoisse.
Du coup, il risque de fusionner les deux politiques, ou pire, d'appliquer la mauvaise, ce qui brise instantanément la confiance de l'utilisateur.
Ouais, l'utilisateur va se dire « ce truc raconte n'importe quoi » et c'est fini.
Exactement. Transformer des décennies de données non structurées en un format digeste pour une base de données vectorielle, c'est un chantier titanique. Et en plus, ça s'ajoute à l'intégration des systèmes vieillissants, ce qu'on appelle le « legacy ».
Ah oui, le legacy, les vieux logiciels sur lesquels l'entreprise tourne depuis 20 ans.
C'est ça. Connecter un agent moderne exige très souvent de créer des ponts vers 50, voire 200 applications différentes qui ont des architectures complètement obsolètes. Rien que les phases de test d'intégration, ça absorbe la moitié de l'énergie des équipes.
Du coup, si l'approche hybride est la seule viable financièrement face à ces coûts de préparation monumentaux, à quoi ressemble concrètement cette architecture une fois qu'elle est branchée sur le système nerveux de l'entreprise?
C'est là qu'interviennent les fameux 12% de projets qui atteignent réellement la production. C'est un modèle très spécifique. Ces réussites partagent toute une topologie architecturale identique qu'on appelle le modèle hub and spoke.
Le moyeu et les rayons comme sur une roue de vélo.
Parfaitement. Le moyeu central, le hub, c'est le socle acheté sur étagère, le bail. Il centralise la gouvernance, gère les pistes d'audit, sécurise les identités et contrôle les plafonds budgétaires de l'IA.
Ok, c'est la tour de contrôle.
Voilà. Et autour de ce moyeu gravitent les rayons, les spokes. Ce sont les applications métiers très spécialisées, construites en interne par les équipes de dev, donc le build, qui viennent se greffer sur ce centre de contrôle.
Le rapport met en lumière trois déploiements gigantesques qui utilisent cette architecture avec des focus diamétralement opposés. Prenons le cas d'Orange, par exemple. C'est fascinant parce que leur contrainte principale, c'était la vitesse de déploiement et la spécificité linguistique.
Orange a été malin. Ils ont pris un socle d'orchestration du marché pour aller hyper vite sur la gouvernance. Mais ils ont branché dessus un moteur linguistique développé en interne qui est vraiment optimisé pour les subtilités de la langue française et leur jargon technique.
C'est l'essence même du buy to build, du coup.
Exactement. Le hub assure la sécurité des requêtes et le spoke interne garantit la pertinence des réponses. Résultat, ils ont atteint la rentabilité en 6 mois. Ils ont fait grimper leur score de satisfaction client de 62 à 71 et sécurisé 8,2 millions d'euros d'économies annuelles.
Pas mal du tout. Et à l'opposé, on a le contre-exemple parfait avec Siemens. Eux, ils cherchaient pas du tout la rapidité. Ils affrontaient un vrai cauchemar d'ingénierie industrielle. Leurs usines fonctionnent avec plus de 50 fournisseurs différents.
Un environnement totalement hétérogène, oui.
Ouais. Du coup, face à cette fragmentation de dingue, le moyeu de la roue devait être bien plus robuste, non?
Bien sûr. Aucune solution logicielle standard ne pouvait traduire instantanément les requêtes d'un agent vers 50 protocoles industriels différents. Donc Siemens, ils ont dû investir massivement dans le build pour concevoir cette couche de traduction middleware.
Ça a dû coûter une fortune.
L'effort a nécessité 1 an de développement et 2,4 millions d'euros d'investissement initial, rien que pour cette couche-là. Mais, parce qu'il y a un mais, une fois ce goulot d'étranglement résolu, les agents ont pu s'exécuter à l'échelle. Et ça a généré 20,1 millions d'euros de bénéfices industriels très rapidement.
L'investissement a payé. Ce qui nous amène à Scotiabank, et c'est peut-être la mécanique la plus intéressante du lot. Une banque, elle s'en fout de la rapidité linguistique ou des machines-outils. Sa survie, elle dépend de l'auditabilité de ses processus.
C'est le nerf de la guerre pour eux, la conformité.
Et ils affichent un ROI de 157% sur 3 ans. Et tout ça en utilisant l'approche hub and spoke pour intégrer la conformité directement dans la construction de l'agent. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour injecter de la conformité stricte dans des réseaux de neurones qui, par nature, génèrent des probabilités et pas des certitudes.
La méthode de Scotiabank, elle relève de la pure ingénierie des processus. Au lieu de développer l'agent de bout en bout et de demander ensuite à un humain de le tester avec des requêtes pièges, ils ont modifié l'ADN même du flux de travail.
C'est-à-dire ?
Les experts en conformité ont carrément coécrit les règles déterministes du hub. Avant même que le LLM ne génère sa réponse probabiliste, la requête et les données doivent passer par une couche de validation stricte qui est hard-codée.
Ah, donc si le LLM hallucine un chiffre, c'est bloqué avant.
Exactement. S'il y a un doute sur l'origine d'un chiffre, l'action est bloquée avant même l'inférence du modèle.
Donc c'est un filtre en amont, pas un audit en aval. Et les résultats suivent. Ils ont eu une réduction de 91% des faux positifs dans leur processus. D'ailleurs, le rapport mentionne que JP Morgan utilise une mécanique similaire pour économiser 360 000 heures de revues juridiques par an.
C'est énorme!
Seulement, voilà, mettre en place ce niveau d'orchestration, ces hubs, ces spokes, ces couches de validation déterministes, bah, ça demande des outils qui n'existaient même pas l'année dernière. Le paysage logiciel a subi une évolution fulgurante au cours de cet été 2026.
Ah oui, cet été, c'était le grand séisme. Les mois de juin et juillet ont marqué la bascule vers la maturité des outils d'infrastructure agentique. Par exemple, AWS a rendu son Harness, le gestionnaire d'agents d'Amazon Bedrock AgentCore, généralement disponible.
Est-ce que ça change un Harness par la masse?
Ce type d'environnement permet d'exécuter la gestion de la mémoire, de l'état et du routage directement au niveau de l'infrastructure cloud. Ça libère complètement les développeurs de cette complexité.
Mais la véritable secousse, elle vient de Databricks, non? Avec le lancement d'Omnigène en open source, la recherche l'appelle carrément un méta-harness. Son rôle, c'est pas de gérer un agent, mais de coordonner de multiples systèmes d'IA existants.
C'est exactement ça.
Et le détail technique qui change tout, c'est sa manière d'appliquer les contraintes. Jusqu'ici, pour limiter le comportement d'une IA, on comptait sur les prompts. On disait dans le texte « ne dépasse pas un budget de 500 euros pour cette tâche ». Et on croisait les doigts, quoi.
On espérait que le modèle ne l'oublie pas en cours de route. Mais Omnigène déplace cette responsabilité en dehors des instructions textuelles. La contrainte devient mécanique, dure.
Comment ça marche en pratique?
Si l'agent tente de déclencher une action via une API, genre l'achat d'un service, le méta-harness intercepte l'appel API. Il compare la valeur de la transaction avec les limites budgétaires qui sont stockées dans une base de données classique, totalement hors d'atteinte de l'IA.
Radical.
Si la limite est franchie, l'appel API est purement et simplement rejeté au niveau du réseau. L'agent ne peut physiquement pas contourner la règle.
Franchement, cette évolution vers des outils open source puissants, elle coïncide avec une véritable explosion des standards d'interopérabilité. Je pense au protocole A2A qui définit comment les agents de différentes entreprises communiquent entre eux, qui a été adopté par la Linux Foundation.
Oui, et le MCP aussi.
Le modèle contexte protocole, ouais.
Il standardise la connexion aux données et il dépasse les 97 millions de téléchargements mensuels avec l'Agentic AI Foundation. En lisant ça, j'ai envie de me dire que c'est gagné. L'indépendance technologique est acquise, on est libre des grands fournisseurs.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est une illusion d'optique très, très dangereuse.
Ah, tu casses mon enthousiasme.
Désolé.
Les standards comme MCP et A2A fluidifient la communication en surface, c'est vrai. Mais le verrouillage, le fameux lock-in, il opère silencieusement dans les couches inférieures. Les chiffres sont sans appel. Le coût moyen pour migrer une architecture agentique d'un fournisseur cloud à un autre, ça atteint 315 000 dollars aujourd'hui.
315 000 dollars?
Ouais. Et à peine 6% des entreprises sondées estiment avoir l'architecture nécessaire pour changer de fournisseur sans tout casser.
Mais comment ce verrouillage peut persister avec des protocoles open source aussi adoptés partout?
Parce que l'adhérence se crée sur quatre couches distinctes simultanément. Le standard MCP vous aide à brancher l'agent sur vos données, ok. Mais si le modèle de langage propriétaire, la première couche, a été finement ajusté au format de sortie de cet éditeur précis, bah vous êtes coincé.
Et la deuxième couche?
C'est le moteur d'orchestration lui-même, souvent profondément imbriqué avec les services du cloud provider. Et la troisième couche, c'est la plus vicieuse, c'est la mémoire.
La mémoire à long terme de l'agent, le contexte qu'il a accumulé sur les utilisateurs, son historique, tout ça.
Exactement. Si cette mémoire vectorielle est stockée dans un format propriétaire qui est indéchiffrable en dehors de l'écosystème du fournisseur, l'exporter ne sert strictement à rien. Les standards ne règlent pas la question de l'extraction de la connaissance accumulée.
Donc on est bloqué.
La seule protection viable, elle n'est pas technologique, elle est contractuelle. C'est lors de la phase d'achat qu'il faut exiger que les traces de décision, la mémoire et les données, soient exportables dans des formats ouverts sans frais punitifs.
Et ce niveau de vigilance, il vient d'autant plus critique qu'il y a une urgence absolue en ce moment. Une échéance juridique massive qui tombe la semaine prochaine. Le genre de truc qui pourrait transformer des projets techniquement réussis en énormes gouffres légaux.
Tu parles de la date fatidique du 2 août 2026. Omnibus européen qui propose de repousser l'application à décembre 2027 pour laisser souffler un peu l'industrie.
Ouais, mais c'est qu'une proposition, non?
Justement. Sans adoption formelle immédiate, le couperet tombe le 2 août. Et le danger principal, c'est un glissement juridique hyper subtil entre le statut de déployeur et celui de fournisseur d'IA.
Concrètement, ça veut dire quoi pour une entreprise, disons un grand groupe, télécharge un modèle open source performant, l'installe sur ses propres serveurs et utilise du fine-tuning massif pour l'adapter à ses processus internes. Il se dit qu'il est juste en train de déployer un outil. Que dit la loi?
La loi considère que s'il y a une modification substantielle du modèle, l'entreprise ne déploie plus une IA, elle en crée une nouvelle.
Ouch!
Elle bascule direct sous le statut de fournisseur. Ça implique de mettre en place des systèmes de gestion des risques certifiés, une doc technique exhaustive, une surveillance post-commercialisation, même si c'est pour un usage purement interne.
Et si on ne respecte pas ça ?
Les sanctions sont implacables. Des amendes qui peuvent aller jusqu'à 15 millions d'euros ou 3% du chiffre d'affaires mondial.
Ah ouais, d'accord. C'est un argument de poids qui fait pencher la balance vers le bail pur, pour le coup. L'éditeur assume la charge légale, même si ça veut dire être verrouillé chez lui. Donc, si on synthétise, pour éviter l'hécatombe des pilotes, la stratégie optimale réside dans le buy to build.
C'est ça. Acheter l'orchestration de base et la conformité, et concentrer les devs internes sur la couche métier.
Tout en gardant un œil sur les mathématiques du volume, le coût de l'inférence qui explose et les données à nettoyer en priorité. Et bien sûr, utiliser les protocoles open source pour imposer des clauses de réversibilité dans les contrats. On a passé l'essentiel de notre temps à comprendre comment construire cette architecture, comment gérer les coûts et le cadre juridique. On paramètre les garde-fous, on limite les IA.
Mais cela soulève une question importante pour l'avenir.
Laquelle ?
Si aujourd'hui les succès proviennent d'agents qui proposent, pendant que des humains ou des systèmes rigides valident, le frein d'urgence est toujours là.
Ouais, on a le contrôle.
Mais que se passera-t-il demain, lorsque des millions d'agents autonomes de différentes entreprises commenceront à négocier et échanger des données entre eux à la vitesse de la lumière via le protocole A2A ?
Avec des critères de succès totalement invisibles pour les humains qui les ont déployés.
Exactement. Le véritable défi de demain ne sera plus de savoir comment construire l'agent ou comment le financer. Ce sera de découvrir comment l'arrêter.
Une mécanique implacable qui échappe à ses créateurs. Un sujet de réflexion saisissant pour clore cette analyse. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des stratégies agentiques. À très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.